Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Dans le livre d'Exode, Moïse est maintenant, là où nous arrivons, Moïse est dans le désert avec le peuple. Et pendant 40 jours, Dieu a montré à Moïse la loi. Et pendant 40 jours, Moïse reçoit la loi, les préceptes, les décrets de Dieu. Et alors que Moïse descend de la montagne, il arrive face à face avec un peuple qui a tourné. Ils ont littéralement corrompu l'image de Dieu. Ils ont fait un veau d'or. Peut-être que pour nous, le veau d'or, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour eux, le veau d'or, c'était, oui, une idole égyptienne. Mais la perception que les Hébreux s'étaient faite, ils se disaient, Moïse nous manque, Dieu nous manque. Ils sont là-bas, sur la montagne, ensemble. Et nous aussi, on veut célébrer Dieu. Ils se sont dit, on va se faire une image du Dieu, le Dieu que Dieu rencontre, le Dieu que Moïse rencontre. On va lui faire un veau d'or, parce qu'à l'époque, le veau, on pouvait s'asseoir comme sur le veau. Ils avaient cette image que Dieu est assis sur le veau d'or et que Dieu aussi est avec eux. Ils avaient profané toute l'image de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à manger, à boire, à s'enivrer. Et alors qu'ils se sont levés de table pour aller dans la débauche, Moïse est débarqué, est arrivé, a été fracassé dans son âme de voir cette scène. Moïse, dans sa colère, a fait cette erreur. Il a brisé les tables de loi. Il va retourner vers Dieu, intercéder une autre fois pour Israël à un tel point, une telle intercession qu'il va dire à Dieu, s'il le faut, prends ma vie en sacrifice pour eux. Dieu dit non. Et Moïse va plaider avec Dieu. Il va dire, Seigneur, ne nous fais pas partir d'ici si tu ne viens pas avec nous. Et Moïse a faim de Dieu. Moïse a soif de Dieu. Et à un moment donné, Dieu veut montrer quelque chose à Moïse. Dieu veut lui montrer, Moïse, tu as reçu la loi de moi. Et Moïse, la Bible dit que Moïse, que cet homme, ce serviteur, a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il y a dans son cœur, comme dans le cœur de plusieurs personnes ici aujourd'hui, le désir de plaire à Dieu. Il y a des gens partout à travers le monde qui désirent plaire à Dieu. Et Dieu a des décrets, Dieu a des principes, Dieu a des lois que nous sommes invités à mettre en pratique et à respecter par la grâce de Dieu, pas par nos efforts, mais que nous sommes quand même invités à mettre en pratique. Lorsqu'une vie s'éloigne des principes de Dieu, cette vie va commencer à s'écrouler et à descendre de plus en plus. Lorsqu'une famille s'éloigne des principes de Dieu, toute cette famille va commencer à glisser vers le bas. Lorsqu'une société mais les valeurs de Dieu dehors, toute cette société tombe dans une plus grande souffrance. L'apôtre Paul le dit même que les valeurs de Dieu, il le dit dans Galates, que les valeurs, les principes, les lois de Dieu, il dit, le monde n'a rien contre ces choses. C'est bon, les principes, les valeurs, les décrets de Dieu sont bons. Et Moïse cherche à plaire à Dieu dans toutes ces choses. Et à un moment donné, Dieu voit qu'il y a ce manque dans sa vie. Dieu veut lui donner une autre révélation encore plus profonde. Dieu ne veut pas que Moïse voie juste la loi, mais il veut qu'il voie le cœur du juge qui est derrière la loi. Qu'il ne connaisse pas juste l'écrit, mais qu'il connaisse aussi le cœur et la pensée profonde de l'auteur qui a donné l'écrit. Et Moïse dit, Dieu dit à Moïse, demain matin, viens dans ma présence. Viens, c'est le verset que nous allons lire ensemble maintenant qui apparaît à l'écran. Dieu dit dans Exode, chapitre 33, verset 19, « Je ferai passer sur toi tous mes bienfaits. » Maintenant, comprenez bien ceci, il y a des versions de la Bible qui disent, qui citent Dieu en disant, « Je ferai passer devant toi. » Mais c'est mieux de dire, « je déverserai sur toi. » Dieu dit à Moïse, « Moïse, tu vas te tenir devant moi et je veux déverser sur toi tous mes bienfaits. » Je veux que tu reçoives, je veux que ça tombe sur toi, je veux que tu reçoives une révélation que je suis bon. Et Dieu dit après, tout de suite après dans Exode 33, je ferai passer sur toi tous mes bienfaits et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et lorsqu'on lit ces textes rapidement ou juste d'un premier jet ou légèrement, nous pouvons ne pas comprendre le cœur de Dieu. Mais ici, Dieu, c'est incroyable ce qu'il va faire. Il va tellement arrêter son serviteur. Ça m'a tellement touché. Dieu veut montrer à Moïse, j'ai gardé une loi au-dessus des lois, Moïse. Il y a quelque chose qui est encore, qui est supérieur à toute la loi. certains théologiens et commentateurs de la Bible nous disent que dès le jour de la loi, Moïse a déjà reçu une révélation de la grâce qui allait venir dans le Nouveau Testament. Dieu veut montrer à Moïse qu'il y a une loi au-dessus de la loi. Et Dieu veut tellement que Moïse saisisse cette vérité profonde que Dieu dit, je te prendrai, voyez-vous, tout ce que Dieu fait est empreint de profondeur. Dieu ne fait rien sans signification. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Et la Bible dit que Dieu va prendre Moïse dans sa main. Certains commentateurs bibliques croient que Dieu a creusé un rocher. Et Dieu a mis Moïse au creux du rocher et qu'il s'est présenté à lui. Maintenant, je vais vous dire, moi, pourquoi je crois que Dieu a mis Moïse dans le rocher. Parce que Moïse, dans le rocher, ne pouvait plus regarder à droite et à gauche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toi et Dieu, et parfois Dieu veut nous parler, et parfois Dieu veut en venir à toucher notre cœur. Il sait qu'on peut partir d'un sens ou dans un autre, on peut avoir des distractions autour de nous. Et là, ici, c'est tellement important, c'est une opération chirurgicale à cœur ouvert si capitale et supérieure que Dieu veut opérer dans le cœur de son serviteur, qu'il lui dit, il faut que je te place dans un rocher pour que tu n'aies de jus que pour moi. Moïse, regarde-moi, je veux te parler. Je veux te révéler quelque chose d'extrêmement important. Imaginez-vous, mais un instant, Moïse, ce matin, au creux d'un rocher, il ne peut pas se sauver, il n'y a rien à voir, il n'y a que la révélation de Dieu. Il s'arrête et Dieu lui parle. Et Dieu va lui dire quelque chose d'extrêmement important. Voyez-vous, dès le jardin d'Éden, lorsque le serpent a réussi à faire tomber l'homme et la femme, il a cru, lui, qu'il avait réussi une fois pour toutes, à séparer complètement l'homme de Dieu. Et spirituellement, c'est vrai. Et puis tout à coup est venue la révélation qu'un Messie viendrait pour restaurer. C'était toute une surprise pour l'ennemi. Un Messie viendrait rétablir l'homme pour qu'il puisse revenir en communion avec Dieu. Mais il y avait aussi une autre chose, à part du Messie. Dieu s'était gardé, et je le dis dans mes mots très imparfaits ce matin, je vulgarise la parole de Dieu, je la rends le plus simple et claire possible que vous puissiez comprendre le cœur de Dieu. En termes modernes, on pourrait dire, Dieu s'est gardé une carte dans sa poche. Dieu s'est gardé une vérité. Dieu savait tout ce qui allait arriver. Dieu savait que l'homme allait être complètement séparé de lui. Il savait que Dieu ne peut pas tolérer le péché, mais Dieu aime le pécheur. Et Dieu s'est gardé une carte que je vais vous montrer ici. Dieu veut dire à Moïse, tu as reçu toute la loi, mais maintenant je veux que tu comprennes ceci. Dieu dit, je montre ma bienveillance, je donne ma bienveillance à qui je veux, à qui je l'accorde. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. En d'autres mots, de façon bien simple, en français moderne, Dieu est en train de dire à Moïse, oui, il y a un système de loi. Oui, il y a des préceptes. Oui, il y a des commandements. Mais Moïse, je veux que tu comprennes ceci. Au-delà de la loi, il y a mon libre choix à moi, en tant que Dieu, d'exercer mon jugement, ma colère, ou de faire grâce. Moïse, je veux que tu saches. Et quand Dieu dit, je donnerai ma bienveillance à qui je le veux, ce qui est fascinant ici, c'est que le mot bienveillance se traduit littéralement par ceci. C'est bien traduit, mais ça s'explique comme ceci. Ça signifie être remué par le cri de quelqu'un qui attire la faveur de Dieu. Simplement dit, Dieu est en train de dire à Moïse, tu as reçu toute la loi, mais je veux que tu comprennes ceci. Il y a une autre loi, Moïse. Il y a une loi au-dessus de la loi. Il y a ma grâce, Moïse. Moïse, je veux que tu saches, je me suis gardé une loi dans mon cœur. Que même si l'homme est séparé de moi, complètement, je me suis gardé une loi que si un homme ou une femme crie à moi dans sa souffrance, dans son désespoir, même peu importe qui il est, si un homme ou une femme vient et se tourne vers moi, me supplie, crie à moi, m'implore, Dieu dit, ça va remuer mon cœur, ça va toucher mon cœur, et non seulement je vais répondre à sa requête, mais je veux accorder une faveur sur sa vie. Dieu est en train de dire à Moïse, il y a une loi au-dessus de la loi. Je m'en vais dire ceci en deux points très 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 simplement ce matin, ce midi. C'est premièrement le droit de l'homme. Premièrement, le droit de l'homme. Et deuxièmement, la droiture de Dieu. Chaque personne qui est ici aujourd'hui, vous avez le droit légal de venir vers Dieu et de crier à Dieu. Peu importe qui vous soyez. C'est un principe qui est partout dans la parole de Dieu. Dieu s'est gardé ce droit. Dieu s'est gardé une loi au-dessus de toutes les lois. Combien de lois de la Bible séparent l'homme de Dieu? Combien de décrets de Dieu combien de décrets que Dieu a donnés nous séparent de lui. Mais Dieu s'est gardé une loi au-dessus de la loi. Il dit, si un homme crie à moi, si une femme a besoin de moi, et qu'elle vient et qu'elle crie à moi, Dieu dit, je veux que tu saches, mon cœur va être remué. Et je vais bouger. En anglais, on dit move. En anglais, ça dit moved. Dieu dit, je vais être bougé en dedans. Le sens hébreu, c'est Dieu dit, ça bouge en dedans de moi quand un homme ou une femme crie à moi. C'est ça le vrai sens du mot. Et Dieu dit, je vais accorder ma faveur. Partout dans la parole de Dieu, on le voit. Pendant des années, j'ai regardé aux Hébreux, en Égypte, 400 ans. Pas 400 ans d'esclavage, mais 400 ans en Égypte. On ne sait pas exactement pendant combien de temps ils ont été esclaves. Mais pendant longtemps, pendant tout le règne d'un pharaon méchant, au moins 40 ans, selon les commentateurs et les spécialistes de la Bible, au moins 40 ans à se faire frapper le dos, à se faire couper le dos par le fouet. 40 ans, la Bible dit, les mains écorchées par leur travail d'esclave. Et souvent, quand on regarde ça, on ne comprend pas peut-être Dieu. On se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as mis tellement de temps avant de venir les aider? Mais si vous lisez comme il faut Exode 2, c'est le contraire qui est mentionné. C'est pas que Dieu a mis beaucoup de temps avant de les sauver. C'est eux qui ont mis beaucoup de temps avant d'invoquer Dieu. Et la Bible dit, c'est écrit dans Exode 2, que dès qu'ils ont crié à Dieu, Dieu est venu. Le buisson ardent est venu, Dieu a envoyé Moïse et Dieu commence à bouger. Regardez le livre des juges. C'est quoi l'histoire des juges? Le peuple d'Israël, béni de Dieu, s'assoit dans sa bénédiction, commence à s'éloigner de Dieu, perd quelque chose de fondamental et de vital dans la vie chrétienne, la faim, la soif, un cri vers Dieu. Frères et sœurs, Dieu demande que nous ayons un cri vers lui. Dieu demande qu'il y ait une foi, mais aussi une faim et une soif dans notre cœur. Israël commence à être béni, il commence à s'éloigner de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Ils sortent de la bénédiction de Dieu, sortent de la protection de Dieu, perdent la protection de Dieu. Les ennemis, tout à coup, ont accès. Avant, Dieu les protégeait, mais tout à coup, les ennemis commencent à avoir accès, amènent la destruction. Israël tombe à genoux, crie à Dieu, paf, et Dieu vient les sauver tout de suite. Dieu sauve un homme lorsqu'il crie à lui. J'aimerais vous dire ceci. C'est un droit qui est universel. Et c'est un droit qui est spirituel. Mais premièrement, c'est un droit qui est universel. Tous les hommes ont le droit de crier à Dieu. Même si vous êtes ici aujourd'hui, que vous savez peu sur Dieu, que vous n'avez pas de grande connaissance de la Bible, j'aime tellement cette histoire d'un homme qui s'appelait Bartimée, qui est assis aux portes de Jérusalem, aveugle, faible, rien. Vous savez qu'à l'époque, on ne donnait pas un nom à un bébé naissant comme ça. On attendait 2 ou 3 ans. Dans la culture, on attendait que le petit enfant se mette à marcher et commence à développer et révéler tranquillement son caractère ou sa personnalité. Et la maman, quand elle voyait la personnalité de l'enfant, elle lui donnait un nom. Mais Bartimée, on ne sait pas, mais il était aveugle. Et à l'époque, un aveugle, ça valait rien, ça ne pouvait pas aider son père dans les champs, rien. Alors Bartimée n'a pas eu de nom parce que le mot Bartimée veut dire fils de Timée. Bar, ça veut dire fils. Fils de Timée. Bartimée, c'est le fils de Timée. C'est son père. Il n'a jamais reçu de nom. On ne connaît pas sa vie. Moi, c'est qu'il était complètement abandonné, parce que même plus tard, ses parents vont l'abandonner devant les pharisiens. Il se retrouve, peut-être sans éducation, peut-être qu'il n'a même pas pu jamais aller dans une synagogue apprendre sur Dieu. Il se retrouve à mendier aux portes de Jérusalem. Et il entend parler d'un homme qui s'appelle Jésus, fils de David. Et la Bible dit tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va crier à Jésus. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Qui que vous soyez, même si vous n'avez pas une grande connaissance profonde de Dieu, très élaborée, même si vous n'avez pas une bibliothèque de théologie à la maison, si vous criez à Dieu, il va venir. Il va vous répondre. Et la Bible a dit qu'il a commencé à crier à Dieu. Il commence à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus est passé à côté de lui, il n'a rien fait. Et voyez-vous, il y a des gens parfois qui crient à Dieu, et Dieu ne fait rien. Mais ce n'est que temporaire. Il faut continuer. Il crie à Dieu. Et Jésus passe et fait rien. Et voyez-vous, quand Dieu ne répond pas à votre cri, tout de suite, il y a une attaque qui vient. La Bible dit que même les disciples de Jésus, ça veut dire même parfois des chrétiens vont venir. Même parfois un serviteur de Dieu peut faire une erreur. Et les disciples sont venus vers cet homme et disent, arrête, 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 tu déranges. Et Bartimée, la Bible dit, crie encore plus fort. C'est très possible, lorsqu'on étudie comme il faut le texte, c'est très possible que Jésus avait fait déjà un bon bout de chemin. C'est très possible qu'à ce moment-là, Jésus ne l'entendait même plus physiquement. C'est à Jérusalem, c'est un carrefour, c'est les portes du temple. Il y a une foule qui prend Jésus, il y a des milliers de personnes autour de lui. Jésus a déjà fait un bout de chemin, mais je suis certain que spirituellement, Jésus entend Bartimée. Et il dit, mais il crie encore. Et je vous dis ce matin, il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui fait que lorsqu'une femme ou un homme crie à lui, Dieu ne peut plus partir. Dieu est obligé de répondre. Jésus est en chemin. Ah, il entend le cri. Allez le chercher. Et il va le guérir. Jacob, la hanche disloquée, couché par terre, en train de supplier Dieu de le bénir. Et regardez bien le texte. Dieu lui dit, laisse-moi partir. Qu'est-ce qui retient Dieu? Pas la force physique de Jacob, il n'en a plus. Il est la hanche disloquée, il a la face dans la poussière. Dieu peut partir comme ça. Physiquement, Dieu, c'est rien pour lui. C'est un homme, Dieu est tout puissant. Il y a quelque chose dans Jacob qui retient Dieu. Et Dieu ne peut pas partir. Et Dieu dit à Jacob, laisse-moi partir. Je vais vous dire, moi, ce qui retient Dieu. Le cri dans le cœur de Jacob. Et quand un homme et une femme crient à Dieu, Dieu ne peut pas partir. Dieu ne pourra pas passer à côté de vous. La Bible nous montre que le pire des méchants peut crier à Dieu. Manassé, roi d'Israël, était un roi terrible, la Bible dit. Il a fait passer ses enfants par le feu. Il y avait un dieu Moloch qui était une statue de fer dans laquelle on allumait dans ses pieds un feu. Il avait des bras de fer comme ça et on déposait le petit enfant, le bébé naissant. C'est pas tout le monde qui faisait cette pratique en Israël, mais certains la faisaient. Et le roi Manassé a fait ça. Il a pris ses deux fils, il les a déposés sur les bras de Moloch. Et alors que le fer était rouge vif de feu, l'enfant, on déposait sa nuque et ses cuisses sur les bras. Et l'enfant, le bébé naissant se mettait à crier. Le bébé naissant tombait dans les flammes au pied de la statue. La maman se ruait pour prendre son bébé. Et on disait, si le bébé est vivant, c'est qu'il est béni de Moloch. Si le bébé est mort, c'est que Moloch ne voulait pas qu'il vive. Et la Bible dit qu'il a fait passer ses deux fils par le feu et qu'il a encouragé cette pratique en Israël. Tu parles d'un roi. Un roi méchant. La Bible nous dit explicitement qu'il a viré tous les ministres, les sacrificateurs de Dieu, et qu'il a instauré comme responsables, les ministres d'Israël sont devenus des sorciers, vous lirez dans la Bible, de Chroniques. Il a instauré des ministres comme sorciers. Et la Bible dit qu'il a exaspéré Dieu. Vous savez, quand Dieu manifeste son jugement, j'ai bien aimé ce qu'un homme de Dieu a dit, il a dit, quand Dieu arrive à manifester son jugement contre quelqu'un, c'est que cette personne a exaspéré la bonté de Dieu. Dieu est bon et patient, mais on dit, on regarde à travers la parole de Dieu, on voit quand Dieu va manifester sa colère contre quelqu'un, c'est que cette personne-là s'est moquée de la bonté de Dieu. Comme un enfant qui regarde son père et qui sait que son père est bon et gracieux et patient, et puis il va profiter de ça. Il va se moquer de la bonté de son père. Et Dieu a envoyé le roi d'Assyrie qui est venu, et la Bible dit que le roi d'Assyrie a harponné, a planté des crochets dans Manassé, et l'a traîné jusqu'en Assyrie, et qu'il l'a jeté dans le fond d'un donjon. Tu parles d'un roi méchant, jugé de Dieu. Et il est écrit que du fond de son donjon, je le lis pour vous, vous pourrez le lire à la maison de Chronique 33, quand il fut dans la détresse, il adoucit la face de Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut adoucir la face de Dieu, aussi méchant? On pourrait dire, Moïse a adouci la face de Dieu. Il est le grand homme de Dieu. Paul, Daniel, des grands hommes de prière, ont adouci la face de Dieu. Comment est-ce qu'un roi aussi méchant que Manassé, un homme démonisé, qui met des responsables comme ça en Israël, comment peut-il arriver à adoucir la face de Dieu? La Bible nous le dit. Il adoucit la face de Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et il implora Dieu. Regardez, écoutez bien. Celui-ci, Dieu, se laissa fléchir, entendit sa supplication et le fit revenir à Jérusalem pour y continuer son règne. Alors Manassé reconnut que le Seigneur est Dieu. Le pire des méchants peut adoucir la face de Dieu. Le pire des méchants peut crier à Dieu. Et qui que vous soyez ici aujourd'hui, peu importe ce que vous avez commis, ce que vous avez fait, si vous criez à Dieu, Dieu peut sauver votre vie. Dieu peut venir à votre secours. Vendredi soir, un drame terrible est arrivé à Saint-Denis. Vous connaissez sûrement l'histoire. Un homme qui en avait marre est monté à l'étage au-dessus et a tué les 4 personnes qui faisaient du bruit, dont une femme enceinte de 7 mois. 2 petits-enfants de 8-9 ans ont vu la scène. L'homme est redescendu, la police est venue et ont plaidé avec lui. Mais finalement, il s'est tué. Moi, je vous garantis, cet homme aurait pu crier à Dieu. Peut-être que le monde entier aurait explosé de colère contre lui. Mais je vous dis, le pire des pécheurs peut crier à Dieu et Dieu va le sauver. Dieu peut le sauver. Et qui que vous soyez aujourd'hui, que vous écoutez ce message, ou que vous voulez faire écouter ce message à quelqu'un, peu importe ce qu'il a commis, Dieu sait garder une loi au-dessus de toutes les autres lois. Si tu cries à moi, je vais te sauver. Dieu prend Moïse, il le met dans le creux d'un rocher, puis dit, regarde-moi. Là, je vais te partager mon cœur. Tu as la loi, maintenant tu vas connaître mon cœur. Je veux que tu saches, Moïse, quand quelqu'un crie à moi, ça me remue. Et je viens et j'agis. C'est un cri que même les amis de Dieu doivent crier vers lui. Le pire des pécheurs peut crier à Dieu. Quelqu'un qui ne connaît rien sur Dieu peut crier à Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci, même quelqu'un qui connaît beaucoup Dieu doit crier à Dieu. Jésus va raconter la parabole d'un ami qui va chez son ami au milieu de la nuit et qui lui demande du pain. Et vous savez, le cœur de la parabole, moi j'ai toujours pensé que c'était l'amitié, c'est vrai. Mais le cœur du cœur du cœur de la parabole, c'est que l'ami crie après son ami. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, je vais vous dire comment moi je vis avec le Père. Moi, Jésus, je crie au Père pour qu'il vienne à mon secours et qu'il me donne l'onction et l'autorité pour mon ministère. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, parce qu'il est son ami, Jésus, vous lirez la parabole, Luc 18, parce qu'il est son ami, Luc 11, parce qu'il est son ami, mais parce qu'il est sans vergogne. Cet homme-là est en train de taper dans les volets, dans la porte, dans les murs de la petite maison. Il est en train de réveiller tout le quartier, tout le village, parce qu'il veut du pain. Et Jésus dit, ce sont des amis. Et le Seigneur est en train de dire, même si ça fait 20 ans que tu marches avec moi, je m'attends à ce que tu cries à moi. Ce n'est pas parce que maintenant on connaît Dieu, on est dans la grâce, on marche avec Dieu, on aime Dieu, qu'on peut s'asseoir, se détendre, se la couler douce, s'impliquer un peu à l'église, aller à droite et à gauche et vivre une petite vie chrétienne très relaxe. Jésus dit non. Le pire des pécheurs peut crier à moi. L'homme qui ne sait rien sur moi peut crier à moi. Mais par-dessus tout, je m'attends à ce que mes amis crient vers moi. C'est le cœur de Dieu. C'est une tristesse silencieuse dans le cœur de Dieu et dans mon cœur. D'avoir dans ma vie, j'ai voyagé, donc je peux couvrir là où je suis allé, sans que vous sachiez où et qui. Mais d'avoir été parfois en lien avec des gens, je me souviens, en lien avec des gens qui avaient une grande connaissance théologique. Et on parlait des Écritures. Et tout à coup arrive le moment de prier. Et la bouche qui ne pouvait arrêter de parler de la parole de Dieu, lorsqu'est venu le temps de se mettre ensemble et de crier à Dieu, tout à coup tout s'est éteint. Tout s'est éteint. Voyez-vous, le mot théologie veut dire connaître Dieu. Moi, je vais vous dire ceci, je le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Mais il y a des Bartimées dans le monde qui connaissent plus Dieu que certains grands théologiens. Parce qu'ils ont crié à Dieu, ils ont touché le cœur de Dieu. Et c'est bien de connaître la loi de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, « Hey, c'est beau de connaître les Écritures, mais il faut que tu connaisses mon cœur. Il faut que tu connaisses mon cœur. Si tu cries à moi, Moïse, je vais te répondre. » J'ai rencontré des hommes qui crient à Dieu, des hommes qui ont faim de Dieu. Mais quelle tristesse silencieuse, avec beaucoup de respect pour eux et de prière pour eux, d'avoir parfois côtoyé des hommes qui ont des grandes responsabilités et qui peuvent parler du ministère et de l'œuvre de Dieu avec une passion qui dépasse l'entendement. Mais quand vient le temps de fermer nos yeux et de prier ensemble, de crier à Dieu, tout à coup tout s'éteint. De voir des gens dans des rassemblements, parfois dans les églises, des gens qui peuvent chanter, qui peuvent élever une prière vers Dieu. Des gens qui peuvent dire « Amen ». Puis il y a des gens qui disent « Amen ». Puis à la première réunion, on a rigolé ensemble quand j'ai dit ça. Mais comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire d'arrêter de dire « Amen » à l'église. Mais j'ai vu des gens, moi, lever les mains, battre des mains, chanter, tout ça. Et quand vient le temps de crier à Dieu, tout à coup, tout s'éteint. Mais j'ai vu des gens qui, quand vient le temps de crier à Dieu, tout se réveille en eux. tout s'allume. Ils commencent à invoquer Dieu de tout leur cœur et Dieu vient à leur secours. C'est un cri que Dieu attend de ses amis. Voici, on va nous montrer rapidement à l'écran deux, trois citations qui sont très touchantes sur ce sujet. David Wilkerson a dit, « Tout ce qu'il nous faut, c'est de ne jamais, au grand jamais, perdre notre faim, notre soif, un cri vivant au fond de notre cœur pour plus de Dieu. » Edward Mackenzie Bounds a dit ceci, « Le cri du cœur est un profond désir pour Dieu. » La prière est tout simplement l'expression de ce cri. Plus le cri est profond, plus la prière est efficace. Sans ce soupir de l'âme qui a faim pour Dieu, la prière n'est aux yeux du ciel qu'un balbutiement insignifiant. Je continue. Les hommes de Dieu ont vaincu par leur prière. C'est peu de mots, mais de longs et lourds soupirs qui ont remué le cœur de celui qui peut tout changer. Dieu s'attend à ce que ses amis aient un cri dans leur cœur. Ne perdons jamais notre faim de Dieu. Que la bénédiction de Dieu ne vous vole pas votre faim pour plus de Dieu. Dieu s'attend à cela. Et Dieu, dans son amour et sa grâce, s'il voit qu'un enfant, un de ses enfants commence à perdre son cri, à s'éteindre, tombe dans une certaine torpeur très discrète, mais spirituelle. Dieu, dans son amour, vous savez ce qu'il va faire? Et parfois, on regarde des gens autour de nous, et parfois, en tant que chrétien, on peut regarder un autre chrétien qui est en train de s'endormir spirituellement. Puis on a envie de le secouer et dire, « Non, garde ta vigilance spirituelle. » J'aimerais vous dire ceci. Aimez cette personne, ne la jugez pas. Et ayez foi que Dieu est tellement bon qu'il va venir et qu'il va faire ce qu'il faut pour la réveiller. Mais moi, j'ai vécu quelque chose, et je vous en parle très, très sobrement. Je vous en ai parlé un petit peu ce matin. Je dois faire attention parce qu'il y a tellement de détails autour de ça. Je veux vraiment aller à l'essentiel. Mais quand on est venu en France, ma femme et moi, il y a 3 ans et demi, on a traversé toutes sortes d'épreuves. On est débarqué à Joigny, on a trouvé plus que des amis, on a trouvé vraiment une famille spirituelle. Zélia, pasteur Fabien, les gens qui étaient là-bas, on était bénis d'être avec eux. Et après, à un moment donné, on voulait se poser. Vous comprenez? Dans la vie chrétienne, on ne pose pas nos valises. C'est une aventure, la vie chrétienne. C'est du sport, c'est de l'action, c'est du risque, la vie chrétienne. Et spirituellement, il y a des gens qui veulent poser leurs valises. Et tout à coup, commencer à se détendre. Et Dieu ne va pas permettre ça. Et moi, je commençais à avoir ma petite routine. Je pars prêcher, tout ça, bon, tout commence à se sécuriser. Mais dans mon cœur, vous savez ce que Dieu fait? Dieu commence à mettre une pression sur ta vie pour ramener un cri vers Dieu. C'est mieux, je m'explique. Il y a des moments où on perd le cri dans notre cœur et Dieu va nous mettre à une place où on n'a pas le choix de crier à lui. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas vous bénir. Dieu veut bénir tous les aspects de votre vie. Mais ce qui est encore plus merveilleux, il y a une voie encore plus supérieure, c'est que même si ma vie est bénie, j'ai un cri dans mon cœur pour les gens qui souffrent autour de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis béni, mais je ne perds pas ma faim de Dieu. Dieu pourvoit, mais je ne perds pas ma soif de Dieu. Je suis abreuvé dans ma vie spirituelle, mais j'ai encore soif parce que je vois des gens autour de moi qui ont besoin de Dieu. Et petit à petit, il a fallu que le Seigneur m'amène à une place. Et ça a commencé loin, ça. J'étais au Canada. Et je le dis parce que les frères et sœurs, on en a rigolé ensemble de voir comment Dieu peut faire des choses incroyables. Pasteur Fabien m'appelle, j'étais au Canada. Il dit, Christian, tu sais, on m'a offert de prendre l'église à Mantes-la-Jolie. Et moi, j'étais venu prêcher à Mantes-la-Jolie une fois dans ma vie. Et le pasteur qui m'avait amené à Mantes-la-Jolie, il m'avait mis sur le train. Puis il m'avait dit, tu vas où maintenant? J'étais dans une autre église. Il dit, tu vas à Mantes-la-Jolie? Il dit, oh, Mantes-la-Jolie? Tu connais pas Mantes-la-Jolie? Je dis, non. J'étais avec ma femme, il dit, vous partez pas comme ça? Et on va vous aider à y aller et tout. Puis, wow, quand je suis arrivé, puis on m'a dit, tu sais, là-bas, ils brûlent les voitures. Au Canada, on ne brûle pas les voitures. Alors moi, quand je me suis dit, ils brûlent, je me suis dit, wow. Et puis, je me suis dit, je vais y aller, je vais prêcher et je vais me barrer. Je suis venu, j'ai prêché, je suis parti. Ça fait des années, il y en a peut-être, certains d'entre vous étiez là, c'était un mardi soir. Et des mois plus tard, 3 ans plus tard, pasteur Fabien m'appelle au Canada et dit, tu sais, Christian, il y a une ouverture, il y a une porte ouverte pour y aller, tout ça, puis je veux juste que tu mettes ça en prière. Je me souviens, j'ai dit, oh non, même pas en prière, hein? Non, on n'ira pas à Mantes-la-Jolie. Déjà que nous, on déménage en France, allez à Mantes-la-Jolie, tu vois. Et Dieu parfois veut mettre une pression dans ta vie pour qu'il y ait un cri dans ton cœur. Pasteur Fabien est venu faire un stage pastoral ici. Il m'appelle, j'étais à Joigny. Il dit, Christian, tu parles des pauvres. Il y a une association qui s'appelle Phoebe. Ils aident les pauvres. Je dis, t'es où, là? Il dit, je suis à Mantes-la-Jolie. Ah, oh, non, Ça fait deux, là. J'ai dit, Matt Lachely. Mais dans mon cœur, il y a une pression qui montait. Je ne savais pas où. On ne savait pas où. Pasteur Fabien et moi, on a parlé, on a prié ensemble. On sentait ensemble. On ne sait pas où, Seigneur, mais on sait que quelque part sur la région parisienne, tu veux qu'on aille là-bas. Et tu veux qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour les pauvres. Et là, tout à coup, toutes les portes se sont fermées. Et voyez-vous, parfois, Dieu va fermer les portes, il va t'amener dans un problème, et il va t'écraser contre ton problème. J'avais envie de faire ça, première année, je n'ai pas fait, j'étais gêné. Tu sais, parfois, il va t'écraser contre le mur. Et j'étais là, écrasé sur les murs de l'Île-de-France. Dire, Seigneur! Et je me souviens, j'en pouvais plus. Ma femme en a été témoin. Je suis tombé dans une dépression pendant quelques jours. J'étais complètement découragé. Je me levais le matin, j'étais en tournée. Je prêchais dans le sud. Je me levais le matin, je prenais mon petit déjeuner. Mes enfants me regardaient et me disaient, mais papa, il va pas bien. Moi, c'est pas mon genre, mais là, j'allais vraiment pas bien. J'allais prêcher devant les gens. Et j'étais tellement, les gens étaient touchés. Dieu faisait grâce. Mais moi, en dedans, j'étais misérable. Pressé. Dieu me pressait parce qu'il voulait juste un cri. Dieu voulait ramener un cri dans ma vie. Je me souviens, il y a une petite pièce, j'ai ouvert la porte, je suis tombé à genoux, j'ai crié à Dieu. Un jeudi matin de 10h à 10h30, j'ai crié à Dieu. Le lendemain matin, pasteur Fabien m'appelle. Il me dit, Christian, il y a un pasteur qui devait venir à Mantes-la-Jolie. Puis il a été voté, il devait venir. J'ai parlé avec ce frère, on a rigolé ensemble, on s'est dit, c'est incroyable comment Dieu fait les choses. Le frère a dit, il me disait, Christian, j'étais dans sa cuisine, j'ai prêché pour lui. Puis il me disait, Christian, je ne pouvais pas aller à Mantes-la-Jolie. Il y avait une pression sur moi. Je sentais que ce n'était pas ma place. Je sentais que Dieu me disait non. Je disais, c'est incroyable. Le jeudi matin, à 10h30, quand j'ai fini de crier à Dieu, pasteur Fabien a eu un coup de téléphone. C'est là qu'on lui a offert de venir. Après, on s'est parlé de tout ça. C'est incroyable. Mon point est celui-ci. Comprenez-moi bien, on n'est pas les sauveurs de Mantes-la-Jolie. On ne peut rien faire. On est complètement impuissant ici. Complètement impuissant. Mon point est celui-ci. C'est pas mon seul point ce midi. C'est que Dieu a dû me presser contre un mur, juste pour faire monter un cri. Et quand j'ai crié, il a répondu. C'est un cri qui n'est pas un rituel, mais qui doit être régulier. C'est un cri qui n'est pas superficiel, mais qui doit quand même s'exprimer. Dieu ne cherche pas à ce que vous puissiez crier de vive voix, de toute votre voix. Dieu cherche un cri qui vient du cœur. La Bible dit que Anne, à Jérusalem, murmurait. Mais elle répandit son cœur devant Dieu, et Dieu a entendu le cri de son cœur. C'est un cri qui n'est pas public, mais que tout le ciel entend. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Il y a des gens qui disent « Amen, Alléluia, Mantes-la-Jolie, c'est merveilleux. » Mais Dieu, lui, il cherche à ce que tu ailles dans ta chambre à coucher, et que là, tu cries à Dieu. Comprenez-vous? J'aime bien comment les jeunes parlent. Les jeunes, ils disent « Lâche-toi. » Moi, je vais vous dire aujourd'hui, quand tu vas dans ta chambre à coucher, c'est bien, parfois, de méditer, d'ouvrir la Bible et tout, puis de lire, et puis d'être tranquille devant Dieu, tout ça. Pas de problème. Mais moi, je crois à une vie régulière où moi, je vais m'enfermer avec Dieu, et là, je me lâche. Je ne me lâcherai pas ici. Il y a des visiteurs ici ce matin. À l'église, il doit y avoir de l'ordre, de l'équilibre. Quand quelqu'un se lâche à l'église, eh bien, il attire toute l'attention sur lui. Mais quand tu es à la maison, lâche-toi. T'as envie de pleurer, pleure. T'as envie de crier à Dieu, crie à Dieu. T'as envie de taper par terre, oh Dieu. Il y a des grands hommes de Dieu dans la Bible qui se sont lâchés dans le lieu secret, ont crié à Dieu. Et Dieu a été remué. Vous souffrez, criez à Dieu. Il y a quelques années, ma femme et moi, j'en parle ce midi rapidement, ma femme avait vécu un moment difficile dans sa vie, puis on a prié, on a pleuré. Puis je me souviens, elle pleurait, puis à la fin, elle essuyait ses larmes, puis elle allait mieux. Puis elle me dit, dis-toi, toi aussi, Christian, quand ça ne va pas, tu peux venir vers moi. Je dis, ouais, c'est vrai. Tu pleures jamais, toi? J'ai dit, non. J'ai dit, moi, j'ai une petite pièce là-bas. Là. Je pleure souvent. Puis je vais vous dire, quand on s'approche de Dieu, on pleure de plus en plus. Pas parce qu'on est toujours triste, parce qu'on devient sensible. On pleure pour les autres autour de nous. Puis celui qui sème avec l'âme récolte avec chant d'allégresse. Il y a un grand secret de la vie chrétienne. C'est d'aller dans ta pièce, Jésus a dit. Et là, lâche-toi. Mes chers amis, allez-y. Déployez votre énergie quand vous cherchez la face de Dieu. Mettez-y tout votre cœur. Parce qu'il y a une loi au-dessus des lois. Et Dieu dit, si tu cries, si un homme, si une femme crie à moi, mon cœur va être remué. mon cœur va être touché. Sans accusation envers qui que ce soit, je suis convaincu que le meilleur cachet, le meilleur antidépresseur au monde, c'est quand un homme ou une femme ouvre son cœur, crie à Dieu et fait sortir tout ce qu'il y a en dedans vers Dieu. C'est ça que Dieu a dit à Moïse. Lâche-toi, crie à moi, dis-moi tout. Puis je veux vous dire ceci ce matin. Laissez-le sortir toute la souffrance qu'il y a en dedans. Donnez-la à Dieu. Dieu dit, je la veux, je vais l'accueillir, je vais la prendre. Puis je vais vous donner deux promesses ce matin. Si tu cries à Dieu, il y a instantanément comme une éclair, une paix qui va tomber dans ton cœur. La réponse ne viendra pas tout de suite, mais la paix va venir tout de suite. Moi, j'ai vécu des moments de pression, de stress, de détresse dans ma vie. Je suis allé me répandre mon cœur devant Dieu en larmes, crier à Dieu. Et quand j'ai fini que j'ai sué mes larmes, il y a une paix qui vient. Parfois un verset, parfois rien, mais une paix. La réponse ne vient pas toujours tout de suite, mais la paix vient tout de suite. Et ça, le monde ne peut pas donner ça. Je termine maintenant avec ceci. Le droit de l'homme, et en terminant, la droiture de l'homme. Dieu dit à Moïse, je ferai passer sur toi, pas devant toi, hein, c'est pas une bonne traduction, sur toi, l'hébreu nous dit, toute ma bonté. Ici, le mot toute ma bonté, l'expression, en hébreu, en fait, c'est le superlatif du mot bon. Le superlatif d'un mot, c'est le plus haut niveau d'importance qu'on peut accorder à un mot. En d'autres mots, on pourrait traduire en français, Dieu dit à Moïse, je vais te montrer que je suis super bon. On pourrait le traduire littéralement comme ça. Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde-moi là. Rentre dans le rocher, je creuse un rocher, je te mets dans le rocher, tu ne peux pas regarder nulle part. Là, je t'arrête. Regarde-moi. Moïse, j'ai une promesse pour toi. Je suis, le monde croit que je suis méchant. Tu as vu ma colère, tu as vu la loi, tu as vu ta mentalité humaine croit que Dieu est dur. Moïse, regarde-moi là. Connais mon cœur, Moïse. Je suis pas juste bon, je suis super bon. Tournez-vous à quelqu'un ce midi et dites-lui, hey, Dieu est pas juste bon, il est super bon. Dites-lui ça. Déjeunez-vous un petit peu, dites-le à quelqu'un. Dieu est super bon. Frères et sœurs, Dieu est super bon. Il y a des gens qui m'ont dit, tu dis souvent dans tes messages, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est parce que ça grandit dans ma vie de plus en plus. Dans ma vie, ça grandit que Dieu est bon. Dans mon esprit, ça grandit que Dieu est bon. Il y a plein de défis ici à Mantes-la-Jolie. Mais on les regarde en se disant, Dieu est bon. J'ai plein de défis qui m'attendent dans les prochaines semaines. Mais je regarde à Dieu, je dis, Seigneur, je me rappelle que tu es bon. Je veux Dieu face à face qui me dit, Christian, je suis super bon. Et parfois, Dieu veut vous arrêter et dire, hey, arrête de t'inquiéter. Regarde à moi, je suis super bon. C'est pas beau ça? Exode 6:5, Dieu dit, enfin ils ont crié à moi. Pourquoi Dieu dit, enfin ils ont crié à moi les Hébreux? Parce que Dieu n'en pouvait plus d'attendre. Ça faisait tellement longtemps qu'il voulait les sauver, il n'en pouvait plus. Il se fatiguait à les attendre. Et quand ils ont crié à Dieu, foum, il est venu. Puis plus tard, il dira à Moïse, enfin ils ont crié à moi. Moi, je vous dis ceci, quand vous allez crier à Dieu, Dieu va dire, enfin il a crié à moi. Quand vous allez vous tourner vers Dieu et dire, Seigneur, Dieu va dire, enfin, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de venir t'aider. Dieu est comme ça. J'ai un ami, je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas où, qui est en processus, qui a adopté une petite fille en Afrique. Et dans son processus, il y a eu une très mauvaise nouvelle. C'est que suite à toutes les histoires qu'il y a eues avec l'Arche de Zoé, il y a des pays d'Afrique qui ont changé les lois, qui ont rendu l'adoption très, très, très difficile. Et lui, sur des années, avait entamé un processus d'adoption pour un enfant. Et tout ce que ça comporte et tout ce que ça implique autour de ça. Et un jour, il reçoit la mauvaise nouvelle. Le pays a changé les lois. Si tu veux adopter l'enfant, il a adopté l'enfant. L'enfant est au bout de ses doigts. Il s'en allait chercher. Et on lui dit, si tu veux l'enfant, il faut que tu viennes vivre. Il y a une nouvelle loi. Il faut que tu viennes vivre pendant 3 mois dans le pays avec l'enfant. Mais tu peux pas quitter mon travail, ma femme et tout. Je peux pas partir là-bas comme ça. Et voyez-vous, maintenant, marquez bien, mais regardez bien la phrase que je vais dire. Il y a des gens qui crient à Dieu en dernier recours. Mais vous n'êtes pas obligé de crier à Dieu en dernier recours. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Dieu n'est pas obligatoirement votre dernière chance. Il peut être la première. Il peut être le premier que vous pouvez aller voir. Grandir avec Dieu, c'est d'apprendre à aller voir Dieu en premier. Et j'ai tellement aimé ce qu'il m'a dit. Il aurait pu se prendre un avocat. Il aurait pu prendre l'avion, aller se prendre la tête avec eux, taper sur le bureau avec des papiers. Je revendique mes droits internationaux d'adoption, blablabla. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, il a pris sa fille. Il est allé dans le salon. Il a pris tout un risque. Il a pris sa petite fille de 8 ans à peu près. Tout un risque. Il prend sa petite fille de 7 ans. Il dit, on va crier à Jésus. Et Jésus va nous amener notre petite fille. C'est tout un risque. Premier recours. Il se met à genoux. Il crie à Dieu. Si Dieu ne répond pas, sa fille va grandir avec la perception que Dieu ne répond pas. C'est très grave ce qu'il a fait. C'est très risqué. Il a crié à Dieu. Une fois qu'il a crié à Dieu, à l'orphelinat, là-bas, il y avait une clinique médicale. Pendant qu'il crie à Dieu, il y a un homme qui débarque avec un enfant malade. Il dit, est-ce que vous pouvez soigner mon enfant? Et la dame regarde l'enfant et dit, non, on ne peut pas le soigner, c'est impossible de soigner ça. Mais elle dit, on est des chrétiens, on peut prier pour vous. On prie Jésus, on peut prier pour vous. Et l'homme a dit, je le dis avec beaucoup d'amour pour les musulmans, mais l'homme a dit, je suis musulman et je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Et la femme a dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Nous, on vous aime, mais on peut prier Jésus pour vous. Et la dame là-bas en Afrique a prié sur l'enfant et Dieu a guéri l'enfant. Instantanément, l'enfant a été guéri. L'homme s'est relevé avec l'enfant guéri. Il dit, c'est incroyable. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous dire merci? Il dit, vous savez qui je suis? Je suis le juge en chef du tribunal d'instance pour tout le pays. Est-ce que vous avez des problèmes légaux quelconques que je pourrais vous aider? La femme a dit, oui, il y a un monsieur qui aimerait adopter un enfant et à cause des nouvelles lois et tout ça. Il dit, ah, pas de problème, donnez-moi son dossier, donnez-moi le dossier. Je repars avec et je vous fais tous les papiers. Il repart, il se met à faire tous les papiers. Et en faisant les papiers, il remarque que le monsieur, en fait, c'est un pasteur. Puis il dit, moi, je suis responsable de mosquée. Je ne peux pas aider, c'est contre ma religion, je ne peux pas aider un pasteur. Alors, il rappelle la femme, il dit, ça ne marche plus. La femme rappelle mon ami, elle lui dit, ça ne marche plus. Mon ami rappelle son Seigneur, et il dit, ça ne marche plus. Mon ami a crié à son Seigneur. Il a dit, ça ne marche plus. Son Seigneur est allé en Afrique. Et il a dit au juge, il faut que ça marche. Le juge a dit, il faut que ça marche, mais je ne peux pas. Donc, je vais trouver un juge chrétien. Il a pris le téléphone, il a trouvé un juge chrétien. Il a donné le dossier, il a dit, fais le dossier, parce que c'est un chrétien comme toi. Mes chers amis, j'ai terminé. Mais il y a une loi au-dessus des lois. Qui que vous soyez, vous pouvez crier à Dieu. Maintenant, je dis ceci, je souligne en terminant ce que l'apôtre Paul a dit. Ça ne veut pas dire qu'on peut sortir, aller vivre la vie qu'on veut et aller pécher comme on veut. Cette loi n'est pas pour ceux qui ont envie de pécher. Cette loi est pour ceux qui en ont assez de vivre dans le péché. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui veulent continuer à pécher. La grâce de Dieu est réservée pour ceux qui en ont assez. Je veux dire, comme les jeunes disent, qu'ils en ont marre de pécher. C'est pour eux la grâce de Dieu. Si vous en avez assez et vous voulez crier à Dieu, le Seigneur va venir. Le Seigneur s'est gardé une loi dans son cœur. Il a dit à Moïse, j'invite les musiciens à s'approcher. Il a dit à Moïse, Moïse, je suis super bon. Et quand un homme crie à moi, mon cœur est remué et je réponds. Vous savez quoi? Il y a des gens qui veulent toujours savoir quelque chose de nouveau sur Jésus. Il y a des gens qui vont sur toutes sortes de sites internet chrétiens, qui téléchargent toutes sortes de prédications, qui lisent plein d'articles et qui lisent des bouquins, qui vont dans plein de réunions pour apprendre des nouvelles choses sur Jésus. Ce n'est pas super important d'apprendre plein de choses sur Jésus. Ce qui est plus important, c'est de connaître la délivrance du Seigneur Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Le jour où vous allez crier à Dieu et que Dieu va vous répondre, vous allez pouvoir vous lever debout et dire, « Je connais maintenant la grâce de Dieu. » Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez sur la grâce de Dieu. Mais le jour où vous allez crier à lui, qui va vous répondre, vous allez dire, maintenant je la connais sa grâce. Et là, ce sera votre tour de la raconter.